Alors, je dois normalement vous parler de Jung, et autant vous dire que je vais prendre, j'espère que vous ne connaissez pas Jung, ou que vous n'en avez jamais entendu parler, parce que pour ceux qui en ont souvent entendu parler, je vais, je pense, vous prendre complètement à rebrousse-poil. Parce que je suis étonné de voir comme généralement on croit connaître Jung, par ce que j'appellerai de la littérature de vulgarisation, de seconde ou de troisième main, et qui n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'il a écrit. Je me permets de dire cela, ça fait 30 ans que je dirige la traduction française de ses œuvres, donc le moins qu'on puisse dire, c'est que j'étais obligé quand même de pas mal travailler ses textes. Et je m'aperçois que souvent, ce qu'il dit n'a pas grand-chose à voir avec ce que l'on raconte. Et on verra que, particulièrement pour ce qu'il appelle l'inconscient collectif ou les archétypes, ce n'est absolument pas ce qu'on raconte d'habitude. Alors la première chose que je voulais mettre en avant, c'était le fait que pour Jung, quand il parle de l'inconscient, c'est véritablement de l'inconscient. Autrement dit, nous n'y avons pas accès, nous ne saurons jamais ce que c'est. Et de ce point de vue-là, il est très très proche de quelqu'un que j'ai beaucoup suivi, pour lequel je reconnais une grande admiration, que j'ai suivi quand j'étais à l'école normale supérieure, c'est-à-dire Jacques Lacan, qui rappelle que le mot inconscient en allemand, Unbewusstsein, vient de Unbewusst, qui lui-même est parent de Wissen, qui a donné la Wissenschaft, autrement dit la science. Donc l'inconscient, c'est, à strictement parler, invention, je le rappelle d'ailleurs, de ce poète, disons, du pré-grand romantisme allemand, qui était Novalis. Donc ce n'est pas si vieux que cela comme notion. Mais l'inconscient, à strictement parler, veut dire le non-su. Le non-su, et on sait que Lacan le traduit souvent par l'insu, un, trait d'union, su, et qui, sans aucun doute, est la traduction la plus exacte. Et lorsque Jung parle de l'inconscient, c'est toujours cela qu'il veut dire, lui-même. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, c'est intéressant de se rappeler comment Lacan est allé voir Jung, ce qu'il en a retiré, et comme j'ai vu qui m'a été montré par sa famille, le carnet de rendez-vous de Jung, je sais que Lacan a vu Jung un certain nombre de fois. Il a éventuellement brouillé un petit peu les pistes, mais enfin ça, c'était son habitude à lui. Donc l'inconscient, on ne saura jamais ce que c'est, d'une certaine manière, parce que très précisément, ce n'est pas conscient, et si c'était conscient, par définition, ça ne serait plus de l'inconscient. Et lorsqu'on voit l'œuvre de Jung, on voit qu'il se réfère beaucoup à ce que, si c'est un peu difficile, vous me le dites, il se réfère beaucoup à ce qui est la véritable dialectique hegelienne, non pas telle qu'on me l'a apprise moi quand j'ai fait mes études, dans laquelle on me disait vous faites une dissertation, vous faites la thèse, c'est blanc, puis vous faites l'antithèse, c'est noir, et puis vous faites la synthèse, c'est gris. Or, ce n'est absolument pas cela, la véritable dialectique à laquelle se réfère Jung, justement, c'est-à-dire c'est, d'une part on a la thèse, puis on a un travail du négatif, un travail du non, si l'on peut dire, à l'intérieur de la thèse, qui donne l'antithèse, et un travail du non, du négatif à nouveau, qui permet d'arriver à la synthèse étant la récupération du premier terme à un niveau supérieur, ce que, dans le vocabulaire spécialisé, ou je dirais dans le jargon philosophique, on appelle la sursomption. Et pour Jung, l'inconscient, ce qu'il explique largement dans son livre qui s'appelle « Les racines de la conscience », c'est justement la négation. Enfin, plus exactement, le conscient, c'est la négation de l'inconscient. Et donc, plutôt que parler d'inconscient, de notre point de vue à nous, c'est plutôt définir le conscient comme du non-inconscient, d'une certaine manière. Enfin, je sais bien que ça introduirait des difficultés de langage qui seraient extrêmement difficiles. Et d'autre part, pour comprendre Jung, il faut le remettre dans l'horizon culturel qui est le sien, à savoir qu'il est quand même l'héritier. Et il se veut l'héritier de toute la grande philosophie allemande, qui commence en gros avec la théologie de quelqu'un comme Maître Eckhart, le grand maître de ce qu'on appelle la théologie négative au Moyen-Âge, puis qui se poursuit dans l'œuvre de cet immense théologien de la fin du Moyen-Âge, qui était Nicolas de Cuse, qui se poursuit ensuite dans ce mystique luthérien qui était Jacob Böhm, qui va se poursuivre ensuite avec Angelus Silesius, le fameux pèlerin chérubinique dont vous avez bien dû entendre parler, puis qui va aboutir à ce qu'on appelle la théosophie de la fin du XVIIIe siècle, avec en particulier la théologie de l'électricité de quelqu'un comme Oettinger, et qui va se terminer tout au moins très provisoirement dans le romantisme allemand, avec précisément du point de vue poétique et philosophique à la fois quelqu'un comme Novalis, et en même temps chez Hegel d'une part et chez Schelling de l'autre, dont on sait qu'il a énormément marqué Jung. En se rappelant qu'en même temps, cette notion de l'inconscient, je le rappelle donc inventée par Novalis, cette notion de l'inconscient va se poursuivre dans l'œuvre de philosophes comme von Hartmann ou comme Carus au milieu du 19e siècle, dont Jung va reprendre une grande partie des intuitions les plus profondes. Et en même temps, il faut le noter, une influence de sa lecture très approfondie de Nietzsche. Mais lorsque je dis Nietzsche, là, à nouveau, ce n'est pas le Nietzsche tel qu'il est souvent caricaturé en France, c'est le Nietzsche absolument réel, sur lequel il tient un séminaire pendant 10 ans à l'école de Zurich, et qui va l'amener à penser que, précisément, lui, Jung, pense qu'il n'y a pas de Jungien. Donc, à la limite, je me demande bien ce que je suis. Il n'y a pas de Jungien, il veut dire par là qu'on ne théorise réellement qu'à partir de son expérience réelle, et que donc un véritable Jungien, il reprend d'ailleurs la fameuse phrase de Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathoustra, lorsque Zarathoustra déclare « Je n'ai de disciples que ceux qui m'ont trahi ». Et ce que Jung va exprimer dans sa correspondance en disant « Un véritable Jungien est celui qui éventuellement reconnaît un certain degré d'obérativité à ma pensée, mais qui théorise à partir de ce qu'il a vécu lui-même ». Donc, éventuellement, il sera en désaccord avec moi. Et s'il est en total accord avec moi, je me méfie. Je me méfie parce que, est-ce qu'il ne prend pas ce que j'ai écrit pour un texte sacré auquel on ne peut pas changer une virgule? Et évidemment, ce n'est absolument pas de cela qu'il s'agit. Mais lorsque j'essaie de remettre Jung en perspective par rapport à ce dont il est l'héritier, il faut bien mettre en valeur le fait qu'il s'appuie sur une théologie négative. Je vais définir le terme tout de suite, qui est en relation même avec sa notion de l'inconscient. Par théologie négative, qu'est-ce qu'on entend? Sinon cette tradition de la grande pensée chrétienne, mais qu'on retrouve aussi bien, mutatis mutandis, dans toute la théologie islamique, ou qu'on retrouve aussi bien dans une certaine théologie judaïque, qu'on retrouve aussi bien dans la grande métaphysique indienne. C'est-à-dire que ce qui est le principe de toute chose, ce qui est à la source de tout, ce que dans notre tradition on appelle Dieu, enfin c'est vrai que comme je suis sorti de l'Église il y a longtemps, je n'aime pas beaucoup me servir du mot Dieu, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est que précisément il s'agit là de quelque chose qu'on ne pourra jamais définir. En gros, Jung est très proche de ce qui est déclaré dans le Tao Te Ching. Vous savez, le Tao dont on peut parler n'est pas le Tao, où il est très proche de la proclamation de l'un des pères de l'Église, Saint Grégoire de Nice, qui déclare « si tu peux dire qui est Dieu, alors tu es sûr d'une chose, c'est que ce n'est pas Dieu ». Autrement dit, il y a toujours chez Jung le fait, cette idée absolument centrale, que la source de tout, nous ne pourrons jamais nous expliquer dessus, que ce n'est qu'une simple condition de possibilité que, par définition, on ne peut pas examiner. Pour vous en donner un exemple, assez facilement compréhensible, je l'espère, penser à la manière dont on s'était adressé à Saint-Augustin en lui demandant de définir le temps. Bon, alors Saint-Augustin, au départ, s'en tire par une pirouette, et puis ensuite, il explique en disant « Mais écoutez, comment voulez-vous que je définisse le temps? Puisque si je définis le temps, si je parle du temps, je parle. Et donc, si je parle, je prends du temps. Et donc, pour définir le temps, je suis obligé de me servir de ce que j'essaie de définir. » Donc, je ne peux pas. Il y a là quelque chose qui échappe à ma pensée, qui échappe à toute représentation que je peux en avoir, à toute explication que je peux essayer d'en donner. Et c'est vrai que par rapport au principe, précisément, Jung, en gros, assume à peu près la même position. Et ce qui est tout à fait étonnant de ce point de vue-là, alors vous me direz que je suis obsédé, et je le sais bien. Il faut toujours être un peu conscient de ce que l'on est soi-même. De ce point de vue, il est quand même étonnant de voir que, en gros, les grandes références de Lacan et de Jung sont quasiment les mêmes. C'est-à-dire que je pense par exemple à la fin de la psychologie du transfert, qui se termine par deux citations de Nicolas Tcuse, qui sont exactement les mêmes que celles dont se sert Lacan. Et de la même manière que Jung attache beaucoup d'importance à quelqu'un comme Angelo Silesius, le grand élève de Böhm, qui est l'élève, si on peut dire, à travers les siècles, de Nicolas Tcuse et de Maître Eckhart. Et je vous rappelle qu'à la fin de son premier séminaire, Jacques Lacan déclare « Évidemment, je ne peux vous inviter qu'à une chose, c'est à de lire précisément Angelo Silesius ». Donc on voit très bien comme justement il y a cette espèce de, comment dire, de fond commun qui s'explique peut-être par le fait que et Lacan, du point de vue catholique, et Jung, du point de vue protestant, étaient tous les deux très marqués par la tradition chrétienne, mais qui, je pense, explique encore plus par le fait qu'ils étaient, à la différence de Freud, tous les deux psychiatres. Tous les deux psychiatres, c'est-à-dire confrontés, en réalité, à ce qui est la dépossession de l'homme par lui-même devant ce que j'appellerais, en me servant d'un terme qui n'est pas spécialement jungien, mais à ce que j'appellerais le grand autre ou le tout autre, d'une certaine manière. Et où il va y avoir chez Jung cette idée que précisément devant cet inconscient qui est insaisissable pour nous, il va se bâtir ce qu'il appelle la fonction symbolique. La fonction symbolique qui est en relation avec la symbolique. Alors, j'accentue bien le « la » parce qu'on sait très bien que dans l'école à laquelle j'ai fait allusion, on dit « le symbolique ». Ça n'a pas du tout le même sens. Et si on parle de la fonction symbolique, s'il parle de la symbolique, c'est avec cette idée qu'il a trouvé d'ailleurs dans ce qui est l'ancêtre de cette théologie négative dont je parle, c'est-à-dire toute la grande philosophie platonicienne et néo-platonicienne. Ce qui est effrayant avec Jung, c'est qu'il faut avoir une culture absolument immense, d'une certaine manière, c'est qu'il y a toujours cette idée de dire la source, le principe de toute chose, et si l'on peut dire retirer dans son abîme, mais comment puis-je en avoir une pensée? Autrement dit, il est obligé de faire comme ont fait les grands philosophes et néoplatoniciens, de bâtir des instances de médiation. Et la médiation, ça va être précisément le symbole, dans la mesure où le symbole manifeste ce qui est de l'ordre de l'inconnu, le rend plus ou moins connaissable. Je dis plus ou moins parce que, comment le dire en termes simples? Parce que d'une certaine manière, ça manifeste l'inconnaissable, mais il faut bien se rendre compte que lorsque ça manifeste l'inconnaissable, précisément cet inconnaissable n'est plus inconnaissable. C'est-à-dire que d'une certaine manière, ça le manifeste, ça le dévoile, mais dans le même mouvement que ça le dévoile, ça le voile. C'est-à-dire que ça le rend appréhendable, appréhensible par nous, tout en le gardant totalement dans son secret. D'une certaine manière. Et c'est là-dessus que va venir précisément sa notion, sa fameuse notion d'archétype. D'archétype sur lequel je reconnais que généralement, lorsque je lis les définitions de l'archétype, les cheveux se dressent sur ma tête. Parce que l'archétype, généralement, on l'entend comme une image qui serait partout la même, dans tous les temps et dans tous les espaces. Or, ce n'est absolument pas ce que veut dire Jung. Il le dit bien, l'archétype, il est allé le chercher. Justement, chez les pères de l'Église, en particulier chez le pseudo Denis ou chez Saint Grégoire de Nice, il est allé le chercher surtout dans l'œuvre de Plotin. Autrement dit, il prend l'archétype, je vais essayer de le définir très rapidement, précisément par rapport à ce que signifie réellement ce mot. Alors, le type, ça vient du mot grec, typos, l'empreinte, ça c'est assez facile. Ce qui pose un problème, c'est l'arché. L'arché, dans la mesure où arché, en grec, ça a trois sens. Ça veut dire le principe. Et d'ailleurs, c'est ce qui a amené, on le sait, à réviser beaucoup de traductions du début de l'évangile de Saint Jean, dans les traductions actuelles, qui, vous savez, commencent par, premièrement, en grec, en arken, que généralement on avait traduit par au commencement. Et aujourd'hui, on le traduit par au principe. Ce qui n'a pas exactement le même sens, puisque le principe, justement, c'est de l'ordre de ce qui est de l'inconnu, de ce qui est hors du temps. Et dans la mesure où c'est le principe, au moment où le principe se manifeste, là je prends une position très, très, très philosophique et inspirée précisément du néoplatonisme. Lorsque le principe se manifeste, il est à l'origine des choses, il est à l'origine des choses qui se manifestent, et étant à l'origine, il est, je dirais, dans l'histoire au commencement, à condition de se rappeler qu'il y a en même temps un quatrième sens. Je suis désolé si les choses sont un petit peu compliquées, mais j'essaie d'être au plus près des choses. Le quatrième sens, c'est l'empire. Et c'est en particulier chez Aristote, si je me rappelle bien, enfin, il le reprend à ce grand orateur qui était Isocrate, que l'on trouve parlant de la ligue athénienne, c'est-à-dire la manière dont Athènes avait construit son emprise en dehors de Sparte sur l'ensemble, sur la grande majorité des cités grecques de son époque, dans laquelle il déclare à un moment « arché kakou ». Alors, au début, on avait pensé que ça voulait dire au commencement, le commencement du mal. Et puis, on s'est rendu compte qu'en réalité, ce que ça voulait dire, arché, l'empire, est le commencement du mal. Autrement dit, l'archétype, ce n'est pas, contrairement à ce qu'on dit généralement, quelque chose qui nous veut forcément du bien. Et l'inconscient n'est pas quelque chose qui nous veut forcément du bien. C'est-à-dire que ces gens qui se disent, il suffit, qui me disent, et je l'entends régulièrement, il suffit de se confier à l'inconscient et tout ira bien. Je dis, oh là là, mon Dieu, est-ce que vous vous rendez compte des risques que vous prenez? Parce que l'inconscient, c'est vrai, je pense, peut terminer ce que l'on a beaucoup reproché à Jung, effectivement. Mais là, je pense qu'on ne comprenait pas ce qu'il voulait dire. Peut se terminer dans la mystique, ça peut aussi bien se terminer dans la psychose. Et je suis étonné de voir, comme souvent, la mystique et la psychose, je dirais, c'est le même matériel pris d'une manière différente, d'une certaine façon. C'est-à-dire que là, on est amené en même temps à tout ce que Jung va être amené à étudier, ce sur quoi il va réfléchir, qui est précisément ce qui est de l'ordre du mystique et ce qui est de l'ordre du religieux. Et je sais qu'on l'a beaucoup reproché, simplement, là aussi, on aurait dû le lire. Parce que lorsqu'il parle du religieux, et Dieu sait que Jung en parle, il rappelle toujours que religieux, ce n'est pas du tout l'étymologie que l'on donne, qui a été créée par les polémistes chrétiens à partir du second siècle après Jésus-Christ jusqu'au cinquième siècle. C'est-à-dire, ce qu'on entend toujours, religieux, ça vient de religare, faire du lien. Si c'était ça, ça serait entièrement de l'imaginaire, de cette manière. Et Jung rappelle bien que religio, en latin, le verbe religere, qui a donné la religion, cela veut dire la manière d'évaluer, la manière de se poser des questions. Et lorsque Cicéron, par exemple, parle d'un homo cum religione, si on le traduit mot à mot, ça voudrait dire un homme avec de la religion. Or, en réalité, ce que veut dire Saint-Augustin, c'est un homme qui a des scrupules. Qui a des scrupules, c'est-à-dire il se demande toujours ce qui advient, ce qui le dépasse, qui se manifeste à lui, mais qu'est-ce que cela veut dire? Et où il y a toujours, justement, chez Jung, cette position, il doit y avoir une réclamation éthique chez l'homme, une réclamation éthique qui est due au conscient, qui se pose précisément la question. Et qu'être religieux, c'est cela, c'est se poser des questions. Se poser des questions devant ce qui nous dépasse infiniment, d'une seule manière. Tout en sachant que, précisément, au fond du fond des choses, on ne pourra jamais savoir. On ne pourra jamais savoir, et c'est là-dessus qu'il s'intéresse tellement à la mystique. En rappelant, là aussi, je suis bien obligé de faire un peu d'étymologie, que le mot mystique est de la même racine que le mot mystère, autrement dit que ça vient d'un verbe grec, muein, qui veut dire garder les lèvres fermées. Autrement dit, la mystique, c'est l'expérience que l'on a de quelque chose que l'on ne pourra jamais exprimer. C'est-à-dire que le discours passera toujours à côté, et non seulement le discours, mais les images aussi passeront toujours à côté. Et que donc, d'une certaine manière, on a justement à nouveau cette position de dire nous sommes amenés à un point où nous ne pouvons plus rien dire. Et d'une certaine manière, comme l'avait fait remarquer un savant kabbaliste qui est encore vivant, un grand biologiste, en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui passent leur temps, qui écrivent des volumes et des volumes à dire qu'ils ne peuvent rien dire, d'une certaine manière ?» Mais parce que, justement, on n'en a jamais fini de dire qu'on ne peut pas dire, d'une certaine façon. Et là-dessus s'ajoute chez Jung non seulement cette référence constante d'un côté à la psychopathologie, de l'autre côté à la mystique. Et je vous rappelle une conférence qu'il tient au cercle Eranos, qui était un cercle qui se réunissait tous les ans en Suisse italienne, sur le lac Majeur. Là où Jung rencontrait des gens comme Festugir, comme Puège, comme Kispel, les grands spécialistes de la gnose, où il rencontrait quelqu'un comme Suzuki, qui était le spécialiste du bouddhisme, où il rencontrait des gens comme Zimmer Otuchi, les grands spécialistes de l'Inde et du Tibet, où il rencontrait aussi des physiciens comme Schrödinger ou des mathématiciens comme Hermann Weyl. Mais où donc, lors d'une de ces conférences, à la fin, Jung dit « Et il ne faut pas s'étonner si j'étais obligé de faire appel à la psychopathologie et à la mystique. » Et effectivement, il faisait appel à son expérience de psychiatre, puisque je rappelle quand même qu'il était l'un de ceux qui, avec Bleuler, ont contribué à définir la schizophrénie, puisque avant eux, la schizophrénie n'existait pas en tant que telle, ça s'appelait simplement la démence précoce. Mais où il pointe précisément cette parenté étroite et en même temps cette différence absolument radicale. Cette différence radicale qui tient au fait que est-ce que le moi est construit ou est-ce que le moi n'est pas construit ? Je m'explique sur ces termes. Pour lui, le psychotique est quelqu'un qui a une connaissance, il est très très proche de ce point de vue-là, et j'en suis frappé, du dernier séminaire, le séminaire 23 de Jacques Lacan, le saint homme. Alors évidemment, le saint homme, c'est la manière d'écrire le symptôme, et vous entendez bien, et Jacques Lacan le dit lui-même, comme le saint homme, c'est aussi l'homme saint, d'une certaine manière, comme le psychotique a une connaissance de choses que nous, hommes normaux, entre guillemets, hommes moyens, êtres humains moyens, nous n'avons pas. Et d'ailleurs, je suis étonné de voir que mes amis psychiatres regorgent d'histoires, des connaissances absolument ébouriffantes, même étant donné leur état, des connaissances parfois ébouriffantes, intuitives, que les malades mentaux qui soignent ont effectivement des personnes qui les entourent. Mais en même temps, on voit très bien comment le psychotique est quelqu'un dont le moi a été complètement détruit, qui est pris dans un processus de régression, je dirais, de régression souvent vers le ventre maternel, et comme le mystique est au contraire quelqu'un qui est dépossédé de lui-même, mais qui est dépossédé de lui-même alors que le moi a été construit. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose d'avoir, de détruire le moi ou de dépasser le moi. Et je me rappelle là-dessus une des émissions que j'avais eu à faire avec France Culture, la première fois que le Dalai Lama est venu, où je discutais avec de ses adjoints, et où, croyant connaître, comme tout bon occidental dans son fantasme, croyant connaître les textes orientaux, je parlais de la destruction du moi. Et je voyais les lamas qui se mettaient à sourire de plus en plus. Vous savez, les lamas tibétains, ils ne vous disent jamais non. Mais vous vous rendez bien compte, ils ne vous prennent pas tout à fait au sérieux. Jusqu'au moment où, un peu énervé, je leur ai dit « Mais enfin, pourquoi est-ce que vous riez comme ça sous cap ?» Ils m'ont dit « Mais monsieur, si le moi n'existe plus, qui va connaître le nirvana ? Qui va connaître l'éveil ? Il faut que le moi existe. Mais simplement, effectivement, il faut complètement le dépasser. C'est-à-dire se rendre compte que le moi, comme le définit Jung, n'est qu'un agrégat, je reprends le vocabulaire bouddhiste, ce qu'un ensemble de complexes, et que, d'une certaine manière, on ne peut s'en déposséder que s'il existe vraiment. Et je pense que le mystique est celui, effectivement, qui est dans l'ordre du dépassement, et non pas dans l'ordre de la destruction, ou dans l'ordre du retour en arrière. C'est-à-dire, c'est celui qui, d'une certaine manière, prend conscience, précisément à partir de la construction de sa personne, prend conscience qu'il ne pourra jamais rien dire. Il ne pourra jamais exprimer quel est le secret dernier qu'il connaît à l'intérieur de son cœur, si l'on peut dire, à l'intérieur de sa psyché, mais qu'il ne peut pas le traduire dans un discours, il ne peut pas véritablement le traduire en image, à moins de le trahir, où on est effectivement dans l'exercice de cette fonction symbolique dont j'essayais de vous parler. Et en même temps, il y a chez Jung cette idée, suis désolé, parce que là, je suis obligé vraiment de faire un exposé ultra rapide pour essayer de tenir un peu le temps. Il y a chez Jung cette idée que par rapport à cette ouverture complète, à cette dépossession de soi, qui renvoie d'ailleurs, je pense, à la distinction que l'on faisait même dans la culture grecque. Je pense par exemple au dialogue du Phèdre de Platon, lorsqu'il parlait de la folie, où il distinguait bien la mauvaise folie, c'est-à-dire en gros ce que nous appelons la maladie mentale, et puis ce qu'il appelait la bonne folie, la manière dont on était dépossédé pour être pris par des pouvoirs supérieurs, que lui il appelait des dieux évidemment, ou des daimons dans son horizon à lui, mais où c'était d'une manière fécondante, c'était d'une manière inspirante, c'est-à-dire dont on se dépossédait de soi-même afin de s'ouvrir à ce que, je n'aime pas beaucoup ce vocabulaire, mais j'appellerais du supérieur inconnu, d'une certaine manière. Donc pour Jung, il y a bien cela, et en même temps il y a un chemin qui est absolument capital par rapport à tous les autres, c'est que, selon lui, on ne s'ouvre à cette dimension que par le fait d'assumer quelque chose qui est de l'ordre de la dimension féminine. Autrement dit, c'est un homme, il parle surtout des hommes, évidemment, comme il le dit, quant à la psychologie des femmes, tout ce que je dirais, ça risque de n'être que mon fantasme d'homme. Là-dessus, donc, il faudrait que ce soit des femmes qui l'expriment. Mais au moins, je sais que pour les hommes, c'est dans leur dimension féminine, dans ce qu'ils appellent leur anima, il faudrait s'expliquer sur ce terme, c'est par leur dimension féminine qu'ils s'ouvrent précisément à la découverte de ce quelque chose de complètement inconnu. Et c'est là aussi où je me dis, quand même, c'est quand même bizarre de voir comme quelqu'un comme Jacques Lacan a à peu près la même position. Je pense en particulier à son 20e séminaire, encore, où lorsqu'il parle de la jouissance féminine, dans laquelle il la distingue soigneusement de la jouissance masculine, puisqu'il appelle la jouissance supplémentaire, ou la jouissance autre, et où il en donne comme exemple Sainte Thérèse d'Avila. Sainte Thérèse d'Avila, c'est-à-dire la manière dont, vous savez, dans la scène de la transverbération telle qu'elle rapporte dans sa biographie, Sainte Thérèse d'Avila est visitée par un ange qui tient une lance, d'où tombent des gouttes d'or. Bon, je dirais, un certain type d'interprétation serait un peu trop facile. Et puis l'ange lui enfonce la lance dans le ventre, lui retire la lance, réenfonce la lance, la retire, etc. Et elle jouit. Elle ne fait même que ça, d'une certaine manière. Bon, et là-dessus, on voit très bien comment une certaine psychanalyse classique, et je pense particulièrement au texte de quelqu'un comme Marie Bonaparte, disait que Sainte Thérèse d'Avila avait vécu un émoi sexuel dont elle n'avait pas conscience. Et on voit très bien la manière dont Lacan se moque de ce genre d'interprétation en disant, évidemment, ce n'est pas d'une affaire de foutre comme l'ont cru les gens qui étaient avant moi, c'est précisément cela, la jouissance mystique. C'est-à-dire que c'est par la dimension féminine que l'on s'ouvre à quelque chose qui est de l'ordre du non défini, du non limité, qui est de l'ordre précisément de l'accession à ce qui nous dépasse. Vous l'appelez Dieu, vous ne l'appelez pas Dieu, selon vos croyances. Je répète, moi, c'est vrai, j'ai un petit peu de réticence à l'appeler ainsi. Et ajoute-t-il, et là je pense que nous sommes là aussi, c'est exactement la position de Jung, et ajoute-t-il, il arrive que des hommes soient aussi bien que les femmes. Et quand on sait avec quel soin il choisit son vocabulaire, il arrive parfois, ça peut arriver, il arrive parfois que des hommes, article indéfini, soient aussi bien que les femmes, article défini. Ce qui ne veut pas dire que toutes les femmes connaissent une expérience de jouissance mystique, loin de là, bien entendu, parce que alors, tout dépend de ce qu'elles ont vécu, tout dépend de la manière dont elles ont travaillé. Mais il y a des hommes qui, dans leur dimension féminine, non encombrés par le phallus en tant que signifiant, s'ouvrent précisément à cette dimension d'infini, s'ouvrent à cette dimension originaire, mais d'une origine qui est au-delà de l'histoire, ce que, en gros, je pourrais appeler la réalité avec un grand R majuscule, et comment c'est précisément par le biais de cette dimension féminine que l'on accède à ce qui est de l'ordre du principe originel de ce que Jung, quant à lui, allant le reprendre dans les Upanishads, et particulièrement dans la Chandogya Upanishad indienne, va appeler le soi. Le soi, c'est-à-dire la part en nous qui est de ce divin ou de ces esprits ou de cette transcendance, là aussi vous choisissez le vocabulaire que vous voulez, qui nous habite, qui nous structure, qui nous fait être ce que nous sommes. Mais à condition de bien se rappeler ce qu'il dit aussi clairement à la fin, particulièrement de son grand œuvre qui est le Mysterium Conjunctionis, c'est que le soi, nous n'en connaissons que la face psychique. Autrement dit, la manière dont ça apparaît dans notre psyché. Mais qu'on est bien obligé de penser que ça le dépasse infiniment et que donc une psychologie ne peut être bâtie, là, je pense que je l'interprète à peine, ne peut être bâtie que sur un certain nombre de principes qui sont clairement des principes métaphysiques, pour ne pas dire des principes mystiques, d'une métaphysique mystique, en tant que tel, puisqu'il ajoute, il dit finalement, lorsque je parle des archétypes, de ces principes qu'il définit, je le rappelle, comme des structures vides, c'est-à-dire qu'il fait bien la différence entre les archétypes et les images archétypiques, mais lorsque l'archétype se manifeste, nous sommes effectivement dans l'ordre dans le parage ou dans le domaine, je dirais, de cet inconscient dont nous ne pouvons rien savoir. Et là-dessus, alors, je vais quasiment terminer là-dessus, ça fait plus d'une demi-heure que je parle, on m'a donné une demi-heure. C'est-à-dire qu'il faut bien faire la différence entre précisément ce qu'il appelle les archétypes et l'image archétypique. Autrement dit, l'archétype en tant que structure vide, et ça, Jung y insiste souvent, à tel point d'ailleurs que des Américains, je pense à des gens comme Thomas d'Aquili ou Kugler, ont écrit des savants livres pour expliquer que Lévi-Strauss devait tout à Jung. Comme quand j'étais à l'école normale, j'ai connu Lévi-Strauss, je me porte témoin que Lévi-Strauss n'avait jamais lu Jung. Mais dans laquelle on voit très bien que précisément, à un certain niveau, ils finissent par se rencontrer. Mais donc, dans la mesure où l'archétype est une structure vide, qui se manifeste en tant que faculté de préformer, si l'on peut dire, dans notre psychisme, l'archétype va se remplir de tout ce qui a trait à notre histoire personnelle ou de tout ce qui est véhiculé par la culture dans laquelle nous sommes élevés. Autrement dit, l'archétype, dès que nous sommes devant un contenu, nous ne sommes pas devant un archétype, il s'agit de retrouver la structure. Nous sommes devant ce qu'il appelle une figure archétypique. Et il faut bien voir là-dessus qu'un archétype peut donner des contenus archétypiques complètement différents et que le même contenu archétypique peut renvoyer à des archétypes totalement différents. Il n'y a aucune mécanique. Et qu'à chaque fois, c'est précisément une affaire d'évaluation, une affaire de compréhension et de compréhension profonde. J'en prends un exemple, ce que Jung appelle l'archétype de la grande déesse. Ce qu'il appelle l'archétype de la grande déesse, si vous prenez Pravarti, par exemple, en Inde, si vous prenez Isis en Égypte, si vous prenez Coatlicu, celle à la jupe de serpent, chez les anciens Aztèques, d'une certaine manière, on pourra la ramener à la même structure, a priori, si on peut dire, mais en même temps, on voit bien que les mythes qui y sont attachés sont des mythes complètement différents et que les contenus archétypiques ne peuvent pas être mis en équivalence les uns avec les autres. De la même manière que je suis toujours frappé de voir chez mes amis psy, comme dès qu'on rêve d'un serpent, ils le traduisent comme symbole phallique. Symbole phallique, oui, sauf que si on a fait un tout petit peu d'histoire des religions, on sait que le serpent, en même temps, était l'animal de sagesse présumant de la déesse, et que le serpent peut-être parfois un symbole phallique, il ne me viendrait même pas à l'esprit de le nier, mais qu'en même temps ça peut renvoyer au contraire à quelque chose qui est de l'ordre de ce que j'appellerais un féminin sacré. Donc vous voyez bien comme là il n'y a pas de traduction automatique, il n'y a pas de traduction directe de la structure vers le contenu ou du contenu vers la structure.
Merci. Au revoir.
Thank you.